Écoutez, faites silence. 10 février 1911, parution chez Fayard de Fantômas. Mars, Juif contre Fantômas. Avril, le mort qui tue. Et ça continue comme ça pendant 32 volumes. Là, je casse un peu la baraque à Jean-François. Et alors, ces 32 volumes, qui sont parus avec des couvertures de Ginon Starras, qui participe bien sûr du succès, et il y a un thème de réflexion toujours sur l'illustration et son rapport à la littérature populaire, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Certains ont des titres intrigants, le policier apache, le fiacre de nuit, le magistrat cambrioleur, le bouquet tragique, le cercueil vide, le cadavre géant, le voleur d'or, la série rouge, le train perdu. Une énumération dont on ne peut nier qu'elle ait un certain caractère poétique. Enfin, en tout cas, moi, c'est une poésie qui me touche. Et on va voir que, assez curieusement, elle a touché beaucoup de poètes. Alors que ce rythme de production, un volume par mois, Souvestre et Alain avaient signé un contrat en 1910 et... la parution a commencé quelques mois après, mais un rythme d'un volume de 400-450 pages, hein, quelque chose comme ça, en gros. Ouais. Tous les mois, faut le tenir, y compris quand on dicte ou quand on a des nègres, il faut y aller à la manœuvre. Donc on pourrait qualifier ça d'un rythme de production industrielle. Et ce qui est assez curieux, c'est que les gens qui très rapidement se sont intéressés dans les milieux intellectuels, j'entends parce qu'il y a eu un énorme succès populaire, c'était des livres pas chers du tout, 65 centimes. Les gens qui s'y sont intéressés appartenaient tous à ce qu'on peut appeler l'avant-garde littéraire. Et vous allez voir que ce n'est pas des petits écrivains français qui s'y sont intéressés. Alors, se pose une première question pour moi. J'ai pas de réponse. Je sais pas si Étienne ou Marc en ont. C'est que Fantômas a été précédé quelques années auparavant par un autre grand criminel qui est Zygomar, paru en feuilleton en 1909-1910 et un petit peu plus tard en fascicule. Par Léon Zazie. Pourquoi Fantômas a-t-il obtenu ce succès considérable et pas Zygomar, qui a quand même donné quelque chose au langage courant, puisque quand on traitait dans l'argot populaire il y a quelques années quelqu'un de Zig ou de Zigoto, ça venait de Zygomar. Alors, le premier signe intéressant, c'est pas tout à fait le premier signe, mais vous me permettrez d'être achronologique. Le premier signe intéressant, c'est un numéro de la revue dirigée par Guillaume Apollinaire et Jean Sérus, Les Soirées de Paris, très précisément le numéro 26-27, juillet-août 14. On est déjà, hein, comme Marc vous l'a indiqué, les films de Feuillade sont sortis, les premiers en 13, et obtiennent aussi un grand succès. Et... ça sert peut-être de déclencheur parce que dans ce numéro on trouve une critique des films de Feuillade et puis on trouve surtout un poème d'un poète important de l'époque qui s'appelle Max Jacob, et ce poème s'intitule assez énigmatiquement Écrit pour la SAF. Alors, traduction tout de suite, Société des Amis de Fantômas. Quelques vers de ce poème sont un peu plus explicites. Ma mère fut attachée sur un siège Louis XIII, devant un revolver qui devait la tuer à 5h13. Pickpocket dans les trains, drame dans le métro, cadavre maquillé au creux des hôpitaux. Du féerique tremplin de ma férocité, moi, Fantômas, je saute à mon 7e étage. Ça, c'est la première partie du poème qui traite de Fantômas et un peu plus loin encore d'une société qui a été constitué, qui s'appelle, sur lequel on ne sait pas grand-chose, à vrai dire. On va y revenir, la Société des Amis de Fantômas, qui semblerait avoir été composée de 4 membres, Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Picasso et Maurice Rénal, qui était le critique cinématographique des soirées de Paris. Des 4, c'est Max Jacob qui va manifester la plus grande admiration pour Fantômas. Dans la troisième partie du poème qui s'appelle « Partie philosophique et morale », il explique son admiration pour le personnage. « Quant à moi, je sentais le besoin d'un héros plus grand que Bel Ami et que Monte Cristo, autre que dans « Dans et Saintes » ou « Le maître des forges ». Pour lui, Fantômas est vivant et c'est un merveilleux professeur d'énergie. Il écrira par la suite 2 autres poèmes, Fantômas et encore Fantômas, poème en prose très court dans le recueil qui s'appelle Le Cornet à dés. Guillaume Apollinaire, lui, a déjà écrit ou écrira le 16 juillet 14 dans le Mercure de France à propos des films de Feuillade. La lecture de Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Alain est en ce moment fort à la mode dans plusieurs milieux littéraires et artistiques. Cet extraordinaire roman, plein de vie et d'imagination, écrit n'importe comment mais avec beaucoup de pittoresque, a trouvé, grâce à la vogue que lui a conférée le cinéma, un public cultivé qui se passionne pour les aventures du policier juif, du journaliste Fandor, de Lady Beltham, avant de conclure quelque chose qu'on devrait méditer plus souvent dans les milieux intellectuels. La lecture des romans populaires d'imagination et d'aventure est une occupation poétique du plus haut intérêt. Dans ses souvenirs, un autre écrivain français de l'époque proche d'Apollinaire, qui est André Salmon, prétend que c'est Apollinaire qui a fondé la SAF en 1912, à laquelle Max Jacob aurait adhéré avec enthousiasme. Mais là-dessus, on n'a absolument aucun autre élément prouvant que, effectivement, aucun texte prouvant que Apollinaire ait fondé quoi que ce soit en 1912. La seule référence écrite qu'on a, c'est une mention dans le numéro de juillet-août de 1914, à la fois dans le texte de Max Jacob et dans un petit texte de la rédaction où ils annoncent cette fondation, qui n'aura pas de manifestation publique, à moins qu'on puisse lui attribuer quelques crimes qui se sont produits après, mais il ne signait pas, donc c'est pareil, une hypothèse à rejeter. Par exemple. On doit considérer que l'acte de naissance de la SAF date de juillet-août 14 et de ce numéro des soirées de Paris, où Fantômas est plusieurs fois cité, et notamment dans la critique des films de Feuillade. À noter, pour prolonger un petit peu cette comparaison avec Zygomar, que Zygomar, tout comme Fantômas, a été porté à l'écran. Fantômas par Feuillade en 13-14 et Zygomar en 1911 par un réalisateur qui n'est pas non plus n'importe qui, c'est un des grands réalisateurs français de films à épisodes, Victorien Jasset. Pourquoi Fantômas a obtenu un énorme succès au cinéma et Zygomar beaucoup moins? C'est une des autres énigmes que je soumets à votre sagacité. Max Jacob, cependant, avait été précédé de peu par un autre grand poète, Blaise Sandra, pas n'importe qui non plus, hein, qui, toujours dans des soirées de Paris, mais en juin 14, avait publié un poème intitulé « Fantômas », où est cité un passage du « Train perdu », le roman de Souvestre et Alain, et qui s'achève sur ces 2 vers « Il y a encore de jolis coups à faire tous les matins de 9 à 11 ». Là aussi, incitation. Un autre grand poète, un peu plus tardif, un peu plus tard, le surréaliste Robert Desnos, mais pas dans sa période surréaliste. À l'époque où il va écrire La Complainte de Fantômas, il a déjà partiellement pris ses distances avec le groupe. Et il écrit dans des conditions qui sont extrêmement intéressantes. cette fameuse complainte de Fantômas qu'il a ensuite publiée dans le recueil Fortune. Mais il ne l'a pas publié intégralement. Le texte de l'émission radiophonique est un plus grand nombre de strophes. Alors il s'agit en fait, c'est assez intéressant, d'une commande du petit journal qui devait sortir quelque temps après un Fantômas de Marcel Alain, si c'était Fantômas. Et le petit journal qui était un des quatre grands journaux de la presse, a commandé une émission à un réalisateur de radio très important de l'époque qui s'appelait Paul Deharme. Et Desnos avait commencé à travailler pour la radio. Il avait commencé également à écrire pour des paroles de chansons, ce qui donc il mettait sa plume au service d'autres activités, ce qui l'avait incité à quitter le groupe Suraliste, notamment après les périodes des rêves qui avaient été assez dangereuses pour lui. Hein, il avait subi quelques avatars, parce que c'est lui qui révèle plus facilement son commande, et il avait failli s'y perdre. Il s'est orienté vers d'autres activités, et donc il a écrit cette fameuse complainte de Fantômas. Écoutez, faites silence, la triste énumération, et je ne me risquerai pas à vous réciter le reste, parce qu'il faut être un comédien absolument doué pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'émission radio, tout ça était découpé, et que le rôle du génie du crime, Fantômas, était joué par Marcel Errant, on l'a vu. Marc nous l'a montré, hein, avec une voix particulière. Il jouait Fandor, et celui qui jouait Fantômas, c'était Antonin Artaud. Donc, et parmi les collaborateurs de l'émission, il y avait également un grand écrivain cubain, Alejo Carpenter, qui a écrit la musique. Donc, vous voyez, quelque chose de très impressionnant qui a monopolisé les ondes, puisque à l'époque, la radio, il y avait beaucoup de postes et beaucoup de postes privés, mais il s'était entendu quasiment énormément de postes, Radio Paris, beaucoup de postes régionaux, pour diffuser cette soirée à peu près en même temps, ce qui fait que ça a eu un certain retentissement. L'enthousiasme de Desnos, qui de tous les membres du groupe Suraliste est sans doute celui qui a été le plus touché par Fantômas, s'est également étendu à ce qu'on appelle la centrale suraliste, ou le bureau des recherches surréalistes. Et là, on a quelques témoignages qui montrent que Fantômas était présent dans ce bureau. Il y a un texte d'Aragon où il nous dit « Nous travaillions à une tâche pour nous-mêmes énigmatique devant un tome de Fantômas fixé au mur par des fourchettes. » Mais il semble bien qu'il n'y avait pas qu'un seul tome de Fantômas fixé au mur, qu'il y en avait plusieurs, et effectivement fixé par des fourchettes. On y reviendra à la fin de mon intervention. Un autre suraliste peintre, lui, rendra aussi hommage à Fantômas. Il s'agit de René Magritte. Et pas seulement par le biais de la peinture. Hein, il a effectivement fait plusieurs peintures avec le personnage du chapeau de forme et du masque, en particulier un tableau dans lequel Fantômas ne tient pas un couteau mais une rose. Quelque chose peut-être de précurseur de l'élection de François Mitterrand, je ne sais pas. Et il a écrit aussi sur Magritte avec des textes. Et il y en a un que, dans ses écrits, hein, qui ont été publiés chez Flammarion, on découvre un Magritte qui s'intéressait beaucoup à la littérature populaire. Et à propos de Fantômas, il dit une chose assez amusante. Il n'est jamais invisible totalement. On peut voir son portrait à travers son visage. La science de Fantômas est plus précieuse que la parole. On ne la devine pas et l'on ne peut douter de sa puissance. Les paroles de poète. Jean Cocteau s'est intéressé aussi à Fantômas, qu'il considérait comme le type parfait d'un degré transcendant de la littérature naïve. Là, on change un petit peu de registre. Fantômas ne s'encombre d'aucun contrôle, aucun scrupule ne le freine. Bref, il relève de ses héroïsmes qui portent le médiocre au-dessus de lui-même, sans la crainte de se rompre le cou. C'est un article du Figaro littéraire. Pareil, on n'est pas dans les mêmes zones. Il cite également Fantômas dans l'un de ses poèmes qui s'appelle Léon. C'est là que Fantômas, roi de 1911, garde un roi prisonnier sous l'andine de bronze. Un poète belge. Après Magritte, Ernest Morman, vous avez vu son film surréaliste, mais avant son film surréaliste, il publie en 1933 un long poème qui s'appelle Fantômas 1933, où apparaît aussi Nat Pinkerton, c'est-à-dire un personnage de dime novels, mais de dime novels non pas américains, mais d'origine allemande ou autrichienne. C'était des dime novels de la firme Eschler, est également cité. Et une petite citation de ce poème. « Fatigué des hommes que le sommeil aveugle, Fantômas s'en prit aux astres, aux fleurs, à la nuit. » Et le poème se termine par « Fantômas qui êtes aux cieux, sauvez la poésie. » Par la suite, Ernest Morman devait mettre en scène ce film, Monsieur Fantômas, dont on a vu un extrait, et donc on peut effectivement, comme le disait Marc, qualifié de surréaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus tard aussi d'une revue de poésie que viendra le grand hommage à Fantômas. Cette revue s'appelle La Tour de Feu. Elle publie en décembre 65 un numéro double intitulé Fantômas. C'est Marcel Alain, le poète masqué. Peut-être un peu exagéré, mais bon, on peut pardonner tout à des poètes. Où l'on trouve des contributions de Frédéric de Towarnicki, qui écrira plus tard avec Alain Resnais l'adaptation d'Harry Dickson, hein, qu'on peut lire, le scénario est paru. Ou d'un autre poète qui s'appelle Paul-Alexis Robic, il ne faut évidemment pas confondre avec le coureur cycliste. Un petit extrait. On a volé le pont du Gard, c'est Fantômas. On a scié le Mont-Saint-Michel. On a perdu le chef de gare, tout comme un aigre au bec de gaz, c'est Fantômas. Et comme on ne peut pas ne pas citer un auteur de science-fiction, un petit texte également de Claude Veillot, qui au début de sa carrière écrit des nouvelles de science-fiction, qui, quand on lui demande de faire un hommage à Fantômas, il se défausse prudemment en disant « Je ne veux pas parler de lui, j'ai bien trop peur que ton ombre immense se dresse sur mon propre toit. » Un poète peut aussi être prudent. Alors, il y a une manière de juger comment quelque chose s'édifie en forme de mythe. C'est pour moi toujours un critère absolu, c'est quand un mythe est parodié, quand on a des pastiches. Alors curieusement, il n'y a pas énormément de pastiches de Fantômas, mais il y en a un qui vaut son pesant de citrouille. C'est Alexandre Brefort, qui est un humoriste un peu oublié aujourd'hui, c'est bien dommage, qui, dans un livre qui s'appelle « Les contes du grand Perzig », il a été réédité dans les années 55 dans une collection qui s'appelait Les Maîtres de l'humour aux quatre jeudis aux côtés d'Ambrose Bierce, d'Oscar Wilde ou d'Alphonse Allais. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Dans ce recueil, il oppose l'insaisissable à l'inspecteur Zig. Dans un roman d'épouvante, c'est ce qu'il titre, titré Inspecteur Zig contre Fantômas. Fantômas y rencontre la sœur de Chéri Bibi, se déguise en inspecteur Zig, en hotu ou en courant d'air. Le pastiche est très savoureux, il est découpé vraiment comme on pourrait découper un céréole. Plus tardif encore, puisque le recueil de contes date de 1946, dans une revue qui s'appelle La Gazette des Lettres, en décembre 1950, un romancier critique qui est surtout connu pour ses romans maritimes. Il est un peu oublié aujourd'hui, c'est bien dommage parce qu'il a écrit sans doute le chef-d'œuvre du roman maritime en France, qui est Pierre Imbourg. Fait voler à Fantômas la liste des prix littéraires de la rentrée et sème la consternation dans le landerneau littéraire. Alors je vous lis la fin de son pastiche. Juve esquissa un triste sourire. Mais oui, tout le monde devait vivre. Les prix faisaient vivre, comme l'espoir. Avant de lâcher Fandor, pris à son propre jeu, il demanda « Qui crois-tu qui aura le Goncourt l'année prochaine ?»« Demande-le à Fantômas, » répondit Fandor. En 1930, autre utilisation de Fantômas, dans son deuxième ou troisième roman, ça dépend, c'est le deuxième roman qu'il a écrit, mais le troisième publié à quelques mois de distance, Pierre Véry écrit « Dans sa l'ombre », qui est un roman assez particulier, comme tous les romans de Pierre Véry, un roman de littérature générale, et dans la troisième partie, qui s'appelle « Paris », il fait intervenir Fantômas. Son héros, qui est un jeune adolescent qui visiblement est à la recherche de compagnies féminines et d'initiation de tous ordres, débarque à Paris, et là sur le quai de la gare, il découvre un grand bel homme, mince, glabre, un rien d'air américain. C'est Fantômas. Fantômas a abandonné la pose romantique du gentleman assassin. Haut de forme en chef, loup sur l'œil, cap au vent, étendant sur la ville plongée dans la brume du sommeil, son ombre de chauve-souris élégante. Que ces choses-là sont bien dites. Et alors Fantômas va faire découvrir Paris et certains de ses secrets au jeune héros Antoine Laguépie, avant de le remettre dans le train pour Bordeaux, parce que Laguépie est un provincial et il ne faut pas qu'il se perde comme Goupil Main Rouge à Paris. Et une fois qu'il a mis le jeune homme dans le train et que le train s'éloigne, il s'exclame « Et maintenant, à nous deux, Juve !» Pierre Véry se doutait-il alors qu'il ferait carrière, et quelle carrière, dans le roman policier ? La même année, il obtenait le grand prix du roman d'aventure avec le testament de Basil Crooks, et il devenait le premier grand auteur français de roman policier. Et peut dire que pour moi, avec Léo Mallet, il reste un des très grands auteurs de romans policiers. Autre personnage important, il a fait aussi partie du groupe surréaliste, mais il s'en est éloigné assez rapidement. En 1950, Raymond Queneau fait paraître un recueil de textes très divers qui s'intitule... ça y est, ma mémoire me joue des tours, bâtons, chiffres et lettres. Et dans ce bâton, chiffres et lettres, où il y a des tas de choses assez diverses, il y a divers hommages, dont un hommage à un auteur de science-fiction, Charles de Fontenay, qui a écrit Psy de Cassiopée, il y a un texte qui s'appelle Fantômas. Le transcendant s'attrape du collège de pataphysique, qui est Raymond Queneau, y écrit « Je voulais écrire une vie de Fantômas ». Donc Étienne a réussi ce que n'a pas réussi Raymond Queneau, c'est quand même un titre de gloire. « J'ai lu 4 fois les 32 volumes, la 5e fois je me suis arrêté au tome 24 ». Mais il dit que ce travail préparatoire lui a permis d'établir une statistique des divers crimes commis par le maître de l'effroi, volume après volume, chantage et escroquerie, vol, enlèvement, délit bénin et tentative d'assassinat. Il remarque, Fantômas rate à peu près un quart de ses assassinats, 73 réussis contre 20 loupés. Peut-être pas le génie du crime qu'on croit. C'est d'un autre auteur, pataphysicien, grand amateur de Fantômas, qui continuera le travail de Raymond Queneau, que viendra non plus une simple énumération chiffrée, mais un décompte très précis, un recensement circonstancier des crimes et victimes de Fantômas, rehaussé, nous dit l'auteur, de quelques détails techniques tirés de l'œuvre de M. Pierre Souvestre et Marcel Alain, en particulier quelques-uns des plus beaux crimes sur la scène du théâtre où d'un seul coup il se met à pleuvoir du sang, enfin bon, des choses très réjouissantes. Ce pataphysicien, c'est un personnage extrêmement intéressant que j'ai eu la chance de connaître. Il s'appelait Pierre David et il publiait de manière assez irrégulière un espèce de petit fanzine tapé à la machine pour quelques amis qui s'appelait « Au rendez-vous des Aminches ». Et un jour, je le croise et il me dit « J'ai entrepris ce que Queneau n'a pas fait, c'est-à-dire vraiment un recensement exhaustif de, à la fois des crimes de Fantômas et des victimes. » Et il se trouve que j'ai eu le grand bonheur de publier ce recensement dans un volume de la revue Enigmatica, hein, édité par Louis Popo, sous le titre « Mémorables hécatombes ». Si un jour un éditeur sérieux veut reprendre cette œuvre magnifique, je me tiens à sa disposition. Quant à Étienne Barillier, il a profité de la collection fondée par André-François Riault, Xavier Mauméjean et Biothèque Rouge pour écrire la biographie de Fantômas en 2006. Vous avez vu qu'il s'est tiré plutôt bien d'une série de pièges redoutables. Moi, j'ai eu plus de chance parce que j'ai fait la vie de Maigret et là, tout est dans Simenon, donc il n'y a rien à trouver. Il ne me reste plus qu'à signaler la parution chez Joël Losfeld d'un numéro, hélas, unique. Hélas. D'une revue qui s'appelait « La nouvelle revue des études fantomatiennes » sous la direction de Dominique Khalifa, qui émanait d'une nouvelle société des Amis de Fantômas. Alors cette société, elle a existé quelque temps, elle a publié un bulletin qui s'appelait L'Insaisissable, bien sûr, et elle avait trouvé un éditeur pour publier un somptueux numéro avec un sommaire tout à fait impressionnant. Il y avait notamment un texte de Marcel Alain dedans, des contributions prestigieuses et d'autres beaucoup moins comme la mienne. Mais elle a eu qu'un numéro et elle a disparu et cette nouvelle SAF nous, apparemment a cessé ses activités depuis quelques années. Alors permettez-moi au passage de regretter qu'en France nous soyons absolument incapables de publier régulièrement des revues sur nos plus grands héros. La revue des études lupiniennes est morte avec Jean-Claude Dinguirard. La revue de la SAF a disparu, il n'y a rien sur Rouletabille, alors que les Anglais continuent d'avoir le Sherlock Holmes Journal et les Américains le Baker Street Journal, qui est publié 3 ou 4 fois par an. Il y a une grande faiblesse française, on devrait se rapprocher d'Albion pour imaginer ça. La société holmésienne londonienne a organisé il y a quelques années un voyage à Montpellier où, comme vous le savez, Sherlock Holmes, en 1897, après le grand hiatus, a fait des études sur le goudron de houille. Nous pourrions aller avec une société des Amis de Fantômas en Afrique du Sud. Alors, je voudrais terminer pour signaler quelque chose qui est aussi un peu à la fois formidable et un petit peu navrant. C'est que la dernière occurrence fantomasienne que je connaisse en littérature, c'est l'œuvre d'un auteur américain de science-fiction qui s'appelle Lisa Goldstein. C'est un écrivain à la fois de science-fiction et de fantasy, dont quelques romans ont été publiés en France. Et elle a écrit un livre absolument étonnant qui s'appelle, en 85, qui s'appelle « The Dream Years ». Et dans ce roman, elle met en scène un jeune américain qui se trouve à Paris dans les années 20, qui se trouve agrégé au groupe surréaliste un petit peu par accident, qui leur rend visite à la centrale surréaliste et qui voit fichés au mur les volumes de Fantômas. Et puis ce jeune Américain est pris dans une espèce de piège temporel qui va le transporter alternativement des années 20 du groupe surréaliste à mai 68 et aux événements que vous connaissez dont on peut penser qu'ils sont également l'œuvre souterraine et cryptique de Fantômas, mai 68. Et ce roman, qui devrait avoir intéressé tous les éditeurs français, est toujours inédit en France, et je trouve que c'est bien dommage. Voilà l'influence sur la littérature.